y aura-t-il un avant et un après Donald Trump ? Depuis son élection en novembre 2016, il n'y a quasiment pas un mois, pas une semaine où une déclaration, un message sur les réseaux sociaux du président américain ne suscite de l'émoi, ne fasse réagir les dirigeants de ce monde, mais aussi parfois les populations. Lors de sa venue au Royaume-Uni il y a un mois, Donald Trump a ainsi fait descendre dans les rues plusieurs milliers de personnes, jusqu'à 250 000 selon les organisateurs de la manifestation Dumb Trump du 13 juillet à Londres. Protectionnisme commercial, remontrance aux partenaires traditionnels des États-Unis, déclarations belliqueuses à l'encontre de pays dits ennemis, soutien au lobby pro-armes, défense de la pratique de la torture, désengagement de nombreux accords internationaux, notamment sur la protection de l'environnement, le chef de l'État le plus puissant de la planète rompt avec la politique à laquelle son pays nous avait habitués depuis de nombreuses années, mais se montre fidèle aux engagements pris lors de sa campagne présidentielle et résumé en deux slogans, Make America Great Again et America First. De quoi réjouir les courants souverainistes, voire nationalistes de certains pays, mais de quoi agacer une partie de l'opinion internationale qui croyait à la fin d'un monde bipolaire avec la chute du mur en 1989. Et peut-être de quoi réveiller ce sentiment anti-américain qui avait marqué la seconde moitié du XXe siècle, notamment en France, quand des cortèges dénonçaient l'impérialisme de l'oncle Sam et scandaient « US go home ». Alors, peut-on s'attendre avec le Trumpisme à un retour de l'anti-américanisme ? Et si oui, comment pourrait-il se manifester ? C'est ce dont nous allons parler pendant cette heure.
Le débat de midi. Didier Siamour sur France Inter.
Et pour en débattre, sont avec nous en studio Laurence Nardon, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez le programme Amérique du Nord de l'Institut français des relations internationales et vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et auteur d'un livre à paraître au mois d'octobre, Les États-Unis de Trump en 100 questions, qui sera publié par les éditions Talendier. À côté de vous, Benjamin Mastemberger, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, essayiste, vous êtes co-auteur notamment de « Inévitable protectionnisme » paru en 2012 chez Gallimard, et vous êtes aussi membre du comité Les Orwelliens qui réunit un certain nombre de souverainistes autour de Natacha Polony.
Absolument.
Et nous attendons un troisième invité qui ne devrait pas tarder, Jean-Christophe Gallian, qui est professeur associé à Paris 1 Sorbonne et qui dirige le cabinet conseil Zenon Seven. Alors, une petite question pour commencer à mes deux invités. Est-ce que vous êtes rendu aux États-Unis récemment? Et quel était le sentiment des gens que vous avez pu rencontrer à l'égard de leur président? Laurence Nardon.
Oui, bah, j'y suis allée et j'étais très frappée parce que moi je m'attendais à trouver. On est très déformé en France dans notre opinion sur les États-Unis. Je m'attendais à trouver des gens de ce mouvement anti-Trump qu'on appelle la résistance, principalement des démocrates. J'ai été très frappée par une discussion que j'ai eue avec une amie républicaine à Washington, qui est éduquée, qui est dans une chercheuse dans un centre de recherche. C'est pour ça que je la connais d'ailleurs, que je connais bien et qui est très intelligente, etc. Donc je lui dis, alors Trump, un peu la honte, lui dis-je, en rigolant comme ça. Et en fait, j'étais très frappée parce que cette femme m'a dit, mais pas du tout, je le trouve très très bien, l'économie va très très bien. Alors elle est républicaine conservatrice, elle ajoute, de toute manière, je n'aime pas cet homme parce qu'il est vulgaire et j'aime pas sa manière de vivre, etc. Mais il va avancer la cause des conservateurs sur les questions comme l'avortement, etc. Donc j'étais... extrêmement étonnée de cette conversation, mais en réalité, j'en conclus qu'une partie de l'opinion américaine et pas seulement les populistes...
Pas les anciens membres des Tea Party ou ce genre de personnes...
Non, des gens tout à fait rationnels aiment Trump, pas forcément l'homme, évidemment, mais sont assez contents d'avoir ce président aux États-Unis. Et je pense que dans notre vision française outre-Atlantique, il ne faut pas l'oublier.
Vous voulez dire qu'il distingue le fond et la forme?
Voilà, ouais, c'est exactement ça. Il distingue l'homme, le personnage, et son hubris, et sa psychologie est quand même assez hors norme.
On va y revenir.
Et les politiques qu'il met en œuvre et qui peuvent servir des agendas conservateurs.
Alors, Benjamin Mastemberger, vous avez eu l'occasion d'aller récemment aux États-Unis et de pouvoir rencontrer des Américains avec qui parler de leur président?
Alors, je n'y suis pas allé depuis l'élection de Trump, mais j'en ai discuté un petit peu avec des Américains, évidemment. Et c'est vrai que, alors, en revanche, moi, l'expérience que j'ai eue plutôt avec des gens, mais qui sont effectivement de Washington, mais qui sont dans les sphères un petit peu, soit de gouvernement ou justement dans les milieux libéraux de gauche, démocrates, etc. Et c'est vrai que, alors, c'est moins surprenant, mais il y a vraiment une ampleur de la détestation de Donald Trump qui a quelque chose de presque effrayant, parce que c'est vrai que moi, la personne, ou en tout cas les personnes à qui j'en ai parlé, justement, au contraire, ils disaient qu'ils avaient un peu honte, justement, d'être américains, quasiment. Et alors que, bon, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, je pense qu'il n'y a pas d'assimilation, en tout cas, entre l'américanité et la présidence de Donald Trump. Il y a une dissociation entre les deux, et donc on pointe pas du doigt les Américains en leur disant « vous êtes du pays de Donald Trump ». Donc ça m'a paru un peu excessif, et je pense que justement, on y reviendra aussi, il y a quelque chose, moi, qui me semble parfois d'un peu pathologique dans l'anti-Trumpisme et dans la haine de Trump d'une partie des élites américaines et également d'une partie des élites européennes et françaises aussi.
Alors, pendant que vous nous répondiez, notre troisième invité est arrivé, Jean-Christophe Gagnon, bonjour.
Bonjour.
Alors, je posais comme première question à nos invités, peut-être allez-vous pouvoir répondre, est-ce que vous êtes allé, vous, de même, récemment aux États-Unis, est-ce que vous avez pu échanger avec des Américains sur leur perception de leur président?
Alors, récemment, non, aux États-Unis. Par contre, notamment dans l'espace européen, j'ai des relations, je dirais, à la fois professionnelles, culturelles, avec un certain nombre d'acteurs américains en Europe. Donc américains en Europe, qui sont à la fois très embêtés parce que finalement, pour beaucoup, ils viennent des espaces dont vous parliez, c'est-à-dire une partie de l'élite américaine formée dans certaines universités avec un certain nombre d'éléments culturels qui font qu'ils sont plutôt proches du Parti démocrate. Ils ont très mal vécu, pour le coup, la défaite. Je pense qu'il y a un élément majeur là-dedans qui est important, c'est-à-dire le fait de se faire battre par Trump, mais par les Républicains, et par Trump en particulier, a été quelque chose qui a été très très mal vécu, au-delà même de ce qu'il peut représenter ensuite dans sa manière de travailler. Alors après, par contre, ils ont une situation un peu paradoxale, c'est que la manière dont Trump et son administration sont aujourd'hui en train de, faire bouger toutes les lignes quasiment de la diplomatie à travers la planète, et en particulier dans la relation à l'Union européenne, font qu'ils sont pour beaucoup quand même reliés soit les entreprises du dit pays américaine ou en tout cas de l'activité diplomatique du pays. Alors il y a une ambiguïté. Et une ambiguïté parce que certains sont très proches, alors qu'ils n'auraient pas du tout envie de l'être, de la manière dont Trump avance, ou recule plutôt, qui finalement se relie assez fortement au repli stratégique déjà entamé par Barack Obama. Et puis d'autres sont, pour le coup, quand même en grande difficulté par rapport justement à cette stratégie de repli. C'est-à-dire que on a des gens qui, dans cet univers-là, n'aiment pas le personnage, mais ils ne l'aiment pas parce qu'il les a battus. En gros, davantage que par sa personnalité, on a perdu peut-être durablement, ce qui les inquiète davantage encore. Et puis il y a celles et ceux qui justement sont à l'extérieur et sont en charge de la présence américaine à travers le monde, privé ou public. Ça marche souvent ensemble d'ailleurs aux États-Unis. Et là, il y a une ambiguïté, il y a une ambivalence entre le fait qu'ils partagent totalement les stratégies développées ou d'autres qui sont en grande difficulté par rapport à ça.
Cela ressemble à du Rita Mitsuko, c'est la version junior avec le groupe Minuit, constitué notamment des enfants du duo, qui nous interprète Blondie, rien à voir avec Donald Trump.
Accroché
Blondie par minuit, le titre a été choisi par Elsa Béranger qui est en charge de la programmation musicale de l'émission. Celle-ci est réalisée par Stéphane Ronxin, assistée à la technique de Paul Percheron et Jérémy Guillon. Elle a été préparée par Fanny Cohen-Moreau et Gaëtan Lévy.
Bonsoir à tous, il est le nouvel homme fort de l'Amérique, Donald John Trump, 70 ans, promoteur immobilier, animateur de télé-réalité, donc élu nouveau président des États-Unis. C'est un saut dans l'inconnu.
Donald Trump, président des États-Unis. Et pourquoi pas Dingo, maire de Paris, pendant qu'on y est. On voit bien qu'il se passe des trucs bizarres là. Et puis avec lui, la parole s'est complètement décomplexée.
Boom, come over here. Boom, come over here. Boom.
Ah, et tu sais, après, quand t'es dans l'avion, t'as une petite fiche d'embarquement à remplir avec que des questions bizarres. Voulez-vous assassiner le président des États-Unis? Alors moi, personnellement, non, mais je connais des millions de barbus qui en rêvent.
And yes, together, we will make America great again.
I'm gonna say one thing, fuck Trump.
Depuis janvier 2017, donc, Donald Trump est officiellement le 45e président des États-Unis, un chef d'État élu, il faut le dire, à la surprise générale, avec un discours patriotique et protectionniste basé sur un slogan « Make America Great Again ». Une véritable rupture par rapport à son prédécesseur qui a suscité de nombreuses oppositions à l'intérieur comme à l'extérieur des États-Unis. Alors, est-ce que ça va jusqu'à l'anti-américanisme? C'est notre débat du jour auquel vous pouvez réagir sur la page de l'émission sur franceinter.fr ou sur Twitter avec le hashtag le débat de midi. Pour commencer, madame, messieurs, comment qualifieriez-vous le trumpisme sur le fond, mais également sur la forme? Vous en disiez quelques mots tout à l'heure, Laurence Nardon.
Voilà, c'est une vaste question, hein, définir le trumpisme. Mais bon, pour aller rapidement, il y a d'abord la psychologie d'un personnage qui est quand même très, très inhabituel, ok. Et puis, sur son projet politique, d'abord, c'est un populiste. C'est un populiste de gauche, donc contre les élites. Il a un discours anti-élite très fort. Il y a un populiste de droite aussi, contre les étrangers. Donc, il y a toute cette dynamique qui est en jeu. Et puis, il a aussi, dans son programme politique, fait alliance avec les conservateurs du Parti républicain, les conservateurs chrétiens notamment. Et c'est pour ça qu'on le voit défendre le port d'armes, dire des choses sur les transgenres, les gays, l'avortement, qui à mon avis sont pas dans son ADN personnel, mais qu'il met en avant maintenant pour plaire
assez électoraliste, à cette, en fait.
Exactement. Et voilà, c'est un mix donc assez explosif et qui est quand même au final difficile à saisir puisque il est pas très, il est pas toujours, comment dirais-je? Il dit pas toujours la même chose d'une semaine sur l'autre, d'un jour sur l'autre. Ça c'est pour revenir à sa psychologie. Et donc tout ceci fait un effet un peu chaotique. Mais je pense que sur le fond, il y a une grande cohérence populiste et conservatrice dans son projet.
Est-ce que la cohérence n'allait pas aussi par rapport à son programme? Parce qu'il avait quand même un programme très conservateur, justement, et souvent on dit qu'il met en application ni plus ni moins que ce qu'il avait annoncé, Benjamin Mastenberger.
Oui, je pense qu'en tout cas, il y a une vraie cohérence vis-à-vis de son programme. Il a un programme qui est un programme protectionniste. Donc ça, il l'applique effectivement à de multiples reprises. On nous a dit, il va pas le faire, il va reculer, il va revenir en arrière. Et finalement, là, ça fait depuis le 6 mars, hein, qu'a débuté cette offensive protectionniste, cette guerre protectionniste. Et à chaque étape, il est allé jusqu'au bout. Vis-à-vis de la Chine, il est allé jusqu'au bout. Vis-à-vis de l'Europe aussi, même si on a trouvé un deal, on peut y revenir. Mais malgré tout, lui a pas le sentiment d'avoir reculé. Donc je pense qu'il y a effectivement une cohérence idéologique profonde qui est une forme d'anti-internationalisme ou en tout cas de refus de la doxa dominante, de l'idéologie dominante qui est une forme d'internationalisme de principe qui a dominé la scène internationale et y compris aux États-Unis depuis des années, c'est-à-dire à la fois l'idéologie de la mondialisation dominante, disons que c'est une idéologie dans laquelle tout le monde gagnerait, etc. Le multiculturalisme et avec effectivement tout ce que ça a pu engendrer. Et donc lui, il est en opposition frontale, fondamentale, totale avec cette idéologie-là. Et donc, il sait aussi que c'est ce que lui demande son électorat. Et donc, il va aller jusqu'au bout de cette politique. Et donc, il ne va pas reculer. Et après, sur la forme, il a une manière de faire très provocatrice. Et il a son côté dealmaker, qui est cette façon d'aller très fort dans un premier temps, de dire « je vais vous tabasser ». On l'a vu avec les Iraniens, on l'a vu avec la Corée du Nord, on l'a vu même avec les Européens. Hein. Et puis après, d'obtenir comme ça des concessions en reculant et en disant « vous êtes mon meilleur ami », etc. Donc je pense que finalement, il y a une forme d'imprévisibilité, mais au bout d'un moment, c'est quelque chose qui fait système et qui n'est pas si compliqué que ça à comprendre dans son imprévisibilité même. Donc il y a un personnage qui finalement est dans une cohérence très profonde, effectivement, mais cette cohérence, elle est totalement déstabilisatrice par rapport à des élites qui s'attendent effectivement à des échanges policés et à ce que dans le cadre d'une négociation, vous sortiez pas comme ça de la négociation d'un instant à l'autre et vous soyez entre gens de bonne compagnie. Et lui, évidemment, il prend plaisir à ne pas être quelqu'un de bonne compagnie. Quoi. Et à être complètement à rebrousse-poil du politiquement correct, de l'écologiquement correct, du multiculturalisme, etc. Donc, plus il prend à rebrousse-poil les élites démocrates, plus sa base électorale, évidemment, est contente, parce qu'il y a ce ressentiment très profond du white trash, effectivement, des classes moyennes américaines, contre ces élites, dont elles ont le sentiment, parfois à juste titre, qu'elles les ont totalement délaissées.
Alors, un certain nombre d'auditeurs réagissent sur Twitter, qualifiant par exemple d'abrutis ou de suprémacistes blancs. Est-ce que ça veut dire, Jean-Christophe Guélien, justement, que c'est pas un peu l'image qu'il veut donner, justement, pour avoir ce côté un peu, comme disait Benjamin Mastenberger, le côté un peu iconoclaste?
Alors, il y a deux espaces, à mon avis, qui sont importants. Il y a une forme et une méthode qui s'approchent de ce qu'on pourrait appeler de la gangsta politique pour gagner l'élection et de la gangsta diplomatie aujourd'hui. C'est-à-dire que et je dis ça, c'est pas juste un petit mot, ça a été, on le retrouvait dans le management, ainsi de suite. On retrouve des techniques, si vous voulez, d'approche qui sont les mêmes, c'est-à-dire provocation, assez grande violence, efficacité directe, rapide. On se met en face, bon, on est prêt à se cogner, voilà. Ça, c'est la méthode, la forme. Il utilise aujourd'hui ce qu'on peut faire. Il utilise comme par hasard, le réseau social le plus trash du monde. C'est-à-dire que, aujourd'hui, officiellement, pas dans Twitter, c'est 80% d'insultes, 80% de matières dégueulasses, ainsi de suite. Donc, il est là-dessus. Et puis après, il y a non seulement cohérence politique, mais stratégique, et qui n'est pas la sienne. Là, autant dans la première partie, il est très Trump. Et il est lui-même, et il est beaucoup moins contrôlable, je dirais, que d'autres présidents. Là, pour le coup, c'est difficile pour ses équipes, s'il y en a encore. Et de l'autre côté, il est beaucoup moins libre, et là, il applique à la lettre une partie d'une stratégie qui est beaucoup plus américaine sur le repli stratégique des États-Unis. Et ce qui nous déstabilise beaucoup, d'ailleurs aussi, parce qu'on s'y attendait pas de cette manière-là. Avec, il l'accélère même, et c'est quelque chose qui était déjà en préparation, et qui est qui se met sur une vision du monde, si vous voulez, qui fait que la mondialisation, effectivement, est finie. Bon, donc, en tout cas, cette capacité à créer de la richesse permanente est finie. Donc, on va se replier sur des zones de bloc, et on va libérer, d'ailleurs, les Chinois dans leur espace. On se fout des routes de la soie. C'est pas un problème. C'est pas un enjeu. On va les attaquer différemment et autrement. La Russie a droit une partie de ses affaires, tout l'Iran. Nous, on est intéressés par notre périmètre, on accepte ça parce qu'on a accepté qu'il y a une fin de ce monde-là et en même temps, on sait que c'est ce qu'ils pensent, c'est le continent nord-américain qui va créer la richesse pour les Américains. Et puis en même temps, on a une forme d'autonomie et l'acte majeur, le point majeur, ça a été l'autonomie énergétique pétrolière en particulier, des États-Unis, et la capacité qu'ils ont aujourd'hui, finalement, d'être indépendants de ce point de vue-là. Les deux sont ensemble. Donc, une méthode, une forme qui est très Trump, et une stratégie, je dirais, une cohérence stratégique qui n'est pas que Trump. C'est-à-dire que finalement, pour le coup, je le crois beaucoup moins libre là-dessus. Et on voit bien, d'ailleurs, sur l'affaire iranienne récemment, c'est pas lui. Là, pour le coup, il y a un instrument, totalement.
Ça veut dire donc que c'est quand même un opposant aujourd'hui à la mondialisation, Laurence Nardon. Est-ce que ça veut dire que c'est pas un reniement quelque part par rapport à toute l'histoire américaine de la seconde moitié du XXe siècle?
Des isolationnistes et des réticents, il y en a eu beaucoup, mais c'est vrai, vous avez raison, que depuis 1945, les États-Unis incarnaient, ou en tout cas avaient fait advenir ce qu'on a appelé l'ordre international libéral, c'est une expression consacrée, pour dire un système international, alors, donc qui était un peu bipolaire au début, puis après la chute de l'URSS en 91, il y a eu cette grande décennie de Pax Americana, où finalement il y avait un système international qui fonctionnait sur le droit international, le respect des institutions, la diplomatie en premier. Alors évidemment, les États-Unis ont fait des actions impérialistes par ailleurs, mais enfin en gros, il y avait un système qui fonctionnait comme ça et qui était reconnu globalement comme le meilleur système. Et quand l'URSS a disparu, il y a eu vraiment 10 ans d'hubris occidentale où on pensait que finalement tous les pays allaient accéder à la diplomatie, l'économie de marché, le pluralisme politique, que tout allait très bien se passer, ça allait être merveilleux. Et puis évidemment, il y a eu le 11 septembre, il y a eu la montée de la Chine, la résurgence russe, etc. Et donc ce moment a disparu. Et
je pose cette question parce qu'on a l'impression également que c'est cette période-là qui était la période la plus porteuse pour l'anti-américanisme aussi. Cette période de 1945 à la chute du mur.
L'anti-américanisme, de toute manière, en France, alors si on veut en parler,
je voulais y venir.
Je crois que c'est quand même une tradition encore plus ancienne que le communisme européen, anti-américain de l'après-guerre. Puisque...
Pas forcément communiste, parce qu'il y a aussi dans l'échiquier politique de l'autre côté, à l'extrême, aussi un anti-américanisme.
Oui, et celui-là d'ailleurs était anti-américaniste dès le 19e siècle, puisqu'en fait, il y avait un anti-américanisme monarchiste qui a ensuite été porté par l'extrême droite en France. Mais oui, vous avez raison, il y avait un anti-américanisme à cette époque-là, devant le triomphe de l'ordre porté par les États-Unis. Aujourd'hui, finalement, l'anti-américanisme doit se redéfinir d'une certaine manière.
C'est votre vision également, Benjamin Mastenberger ?
Oui, absolument. Je pense qu'il faut absolument distinguer l'anti-américanisme effectivement de la période dont vous parlez, depuis 1945 jusqu'aux années 90, qui a été amplifié effectivement par la chute du mur de Berlin, qui est un anti-américanisme qui critique finalement l'hégémonie américaine, le gros bateau américain au service de l'imposition des valeurs, des goûts, de la culture américaine un petit peu partout. Et donc l'anti-américanisme en France, par exemple, traditionnellement, effectivement, il est soit de la gauche de la gauche, des communistes traditionnellement, soit des souverainistes de droite qui disent, finalement, y compris des gaullistes également, qui disent la France, elle doit pouvoir être indépendante en toute matière, etc. Alors que l'anti-trumpisme, il est totalement distinct pour la raison simple que...
Vous parlez d'anti-trumpisme, pas d'anti-américanisme.
C'est-à-dire que l'anti-trumpisme, je dis ça justement parce que l'anti-trumpisme n'est pas un anti-américanisme, n'est pas cet anti-américanisme, parce que le trumpisme est plutôt justement un repli sur soi, au contraire. C'est pas l'imposition des valeurs américaines au reste du monde, et c'est surtout pas l'imposition des valeurs libérales et des valeurs démocratiques au reste du monde, parce que en particulier les élites européennes étaient dans une adhésion vis-à-vis de ce programme, y compris quand c'était pour imposer l'ordre américain par la force. On a vu que les élites européennes, une certaine partie des élites européennes, ont adhéré à ce programme dans les années 90, sous Clinton, y compris sous George Bush Jr. Et donc, en partie Obama, mais Trump encore plus, parce qu'il remet en question fondamentalement la mondialisation, n'est pas du tout dans cette idéologie-là. Et c'est pour ça que je parle d'une forme de virulence de l'anti-trumpisme venant des élites, parce que justement Trump, il fait voler en éclats cette idée selon laquelle les Américains allaient être le garant de cet ordre libéral auquel les élites occidentales s'identifient, parce que c'est l'éthos des classes dominantes, évidemment.
Jean-Christophe Gagnon, pour vous, c'est aussi de l'anti-trumpisme plus que de l'anti-américanisme ?
Alors moi, je le qualifierais pas comme ça. Je dirais que c'est ce qui est le paradoxe qui est intéressant, c'est que ceux qui étaient fans finalement, les aimants, les amoureux des États-Unis, qu'ils soient atlantistes, qu'ils soient reliés à cette forme de la, allez, on a un système qu'on va essayer d'étendre. Voilà. Ceux-ci, ils sont perturbés dans leurs relations aux États-Unis. C'est-à-dire que, alors effectivement, c'est pas qu'ils détestent les Américains aujourd'hui, mais ils sont perturbés parce qu'ils voient une machine américaine qui se replie, qui casse les codes, qui officiellement, parce que ce sont les États-Unis, que ce soit des grandes entreprises, que ce soit l'administration américaine, ils sont sur ils pètent les codes, que ce soit politiquement, géopolitiquement, et aussi parce que les entreprises américaines aujourd'hui continuent d'une certaine manière, elle jouait une mondialisation différente. Donc, ceux-là sont perturbés. Ils sont effectivement beaucoup très largement anti-Trump, mais finalement, ils sont des amours de cette terre qui les a emportés. Puis, paradoxalement, ceux qui étaient de l'autre côté, alors pour le coup très anti-américains, que ça soit à droite ou à l'extrême de la droite, et puis à gauche ou à l'extrême de la gauche, ceci. Finalement, aujourd'hui, on les voit se revendiquer du Trumpisme, parce que c'est beaucoup plus facile pour définir une stratégie ou une politique. C'est pas le personnage, à mon avis, qui est en question, encore que. Et ils se rapprochent, du coup, d'une administration, celle-ci qui, politiquement et géopolitiquement, finalement, semble les rejoindre dans leur définition, notamment de l'Union européenne, de leur relation à l'Union européenne et de la manière de penser le monde. Donc il y a une ligne de fracture qui se met au milieu et qui oppose finalement ceux qui étaient les aimants des États-Unis et puis qui finalement rapproche ceux qui étaient plutôt les détestants des États-Unis.
Cela pourrait être le slogan des anti-Trumpismes. « This is not America ». Vous avez peut-être reconnu la voix de David Bowie accompagné du Pat Metheny Group avec This Is Not America, titre extrait du film Le Jeu du Faucon, sorti en 1985.
Il s'agit de gens qui souvent, quelquefois, viennent avec de mauvaises intentions. Je ne veux pas de ça. Ils sont de l'État islamique, ils viennent sous de faux prétextes. Je ne veux pas de ça. Je serai le président d'un pays sûr. Nous avons assez de problèmes. Je crois que l'Europe a commis une erreur monumentale en laissant ces millions de gens rentrer en Allemagne et dans plusieurs autres pays. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe là-bas. C'est une catastrophe.
Je regrette la décision du président américain.
Cette signature de Donald Trump acte-t-elle la fin de l'accord sur le nucléaire iranien ? Paris, Berlin, Londres s'activent pour répéter que l'accord n'est pas mort et qu'ils continueront de l'appliquer comme tous ses autres signataires, Chine et Russie compris.
Et c'est après avoir dit cela qu'il a effectivement fustigé le président nord-coréen en parlant d'homme fusée en mission suicide, ce sont les mots qu'il emploie, homme fusée en mission suicide, pour défendre son régime et pour se défendre lui-même. Et donc, si nous ne pouvons pas faire autrement, eh bien nous serons obligés de détruire totalement la Corée du Nord.
Avec ce tweet d'une rare virulence, le président américain Donald Trump menace le régime iranien de représailles.
Ne menacez plus jamais les États-Unis ou vous subirez des conséquences que peu de gens ont connues dans l'histoire. Notre pays ne supporte plus vos paroles démentes de mort et de violence. Faites attention.
Nous allons construire un mur. Moi, j'ai pas envie d'attendre un an et demi, on va commencer à construire. Bien. Le Mexique, sous différentes formes possibles, va nous rembourser et va nous rembourser le coût de la construction du mur.
Le débat de midi. Didier Siamour sur France Inter.
À l'écoute de ce mix de déclarations et de prises de position de Donald Trump, on a l'impression en fait que c'est presque un bras d'honneur permanent aux autres pays, aux partenaires comme aux adversaires, quitte à susciter un ressentiment. On a l'impression que ça le dérange pas, Laurence Nardon.
Oui, il casse les codes, mais comme on l'a dit tout à l'heure, sa technique de négociation est extrêmement brutale et efficace. Et en fait, elle est déjà exposée de manière très claire dans L'Art du Deal, son best-seller de 1987, où il explique comment obtenir les meilleurs contrats dans l'immobilier new-yorkais. Et on voit qu'en fait, c'est vraiment des méthodes de voyous. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut intimider l'adversaire, taper très fort au début. Alors après, la personne avec qui on négocie va éventuellement faire des concessions. Il faut ne pas hésiter d'ailleurs à claquer la porte. Non, on s'en va. Il l'a fait avec la Corée du Nord. Et comme ça, l'adversaire... vous poursuit dans le couloir en disant non, je vais faire telle concession qui était impossible deux jours avant. Enfin,
on a connu l'inverse aussi, où il quittait un sommet et puis après dans l'avion, il tweetait l'inverse de ce qu'il avait reconnu au sommet.
Oui, tout à fait. C'est cette méthode complètement, inédite dans la diplomatie récente qui consiste à être extrêmement brutal et obtenir des choses inattendues.
Benjamin Stamberger, pour vous, c'est ça, c'est d'abord une méthode, le trumpisme.
Que vis-à-vis des accords internationaux, il y a deux choses. Il y a ce que vous avez dit, c'est-à-dire l'art du deal, c'est-à-dire aller à l'extrême et puis après revenir à quelque chose qui est favorable pour vous. Il a fait des millions de fois avec la Corée du Nord, où il allait raser la Corée du Nord et puis le jour d'après, c'était son meilleur ami et donc on allait avancer, etc. Et puis il y a autre chose qui est quand même la dimension souverainiste, populiste, « Make America Great Again », qui est le plaisir qui prend à choquer effectivement effectivement le côté multilatéralisme, parce que c'est aussi ce qui plaît à sa base, et c'est parce qu'il a été élu là-dessus, de pointer finalement l'hypocrisie du multilatéralisme, parce que c'est ça son point finalement, c'est de dire cette mondialisation où on nous dit que tout le monde gagne, en fait c'est elle qui a paupérisé les classes moyennes américaines, ce qui d'ailleurs est en partie vrai. Et donc moi maintenant je vais les défendre, y compris en faisant voler en éclats les traités internationaux. Moi c'est pas ça mon problème. Mon problème c'est de défendre les travailleurs américains, effectivement. Et ça parle effectivement aux travailleurs américains, ça peut se comprendre. Et je pense que ce qui suscite, comme on parle d'anti-américanisme ou d'anti-trumpisme, ce qui suscite la détestation aussi de Trump, c'est que quelque part, en creux, moi je tiens pas à le défendre spécialement, mais je pense que c'est un symptôme, et il pointe un certain nombre de défaillances effectivement de l'ordre précédent, et il pointe derrière cette idéologie du multilatéralisme une certaine forme d'égoïsme en réalité des nations qui demeurent et qui perdurent, mais sous une forme euphémisée. Juste en deux mots, on peut donner un exemple, par exemple sur le financement de l'OTAN, etc., où il a dit aux Allemands, vous êtes bien gentils effectivement, mais vous êtes quand même sous parapluie américain et vous financez l'OTAN à hauteur de 1%, alors que vous êtes censé le financer à hauteur de 2, 3, voire 4%, vous y étiez engagé.
Alors que dans le même temps, lui-même refuse de financer aujourd'hui un certain nombre d'organismes internationaux.
Oui, mais alors c'est-à-dire que lui, il dit, moi, je suis franc, je défends les intérêts des Américains, alors que vous, par exemple les Chinois, les Chinois maintenant sont les parangons du libre-échange, alors que chacun sait que les Chinois défendent leur marché de mille manières, en mettant des normes pour empêcher les entreprises étrangères de rentrer sur ces marchés, etc. Et donc je pense que c'est ce côté un peu éléphant dans un magasin de porcelaine, à dire les choses de manière très franche, très directe, et parfois en touchant juste malgré tout, qui fait qu'il suscite en retour effectivement une forme de haine très très violente, mais qui est aussi une forme de culpabilité larvée vis-à-vis d'un certain nombre d'hypocrisies et de dysfonctionnements de la manière dont le système économique, politique, a été géré au niveau international depuis 30 ans.
On a une réaction d'auditrice qui nous dit « Trump n'a pas réveillé mon sentiment américain, il l'a créé ». Ça voulait dire donc qu'il n'y avait plus d'anti-américanisme et c'est vraiment Trump qui est venu dans cette, qui a amené cet état d'esprit.
Je crois que le paradoxe, c'est qu'effectivement, on a un sentiment très élitaire, compréhensible d'un changement de paradigme américain. C'est-à-dire, je me replie, je ne crois plus à la mondialisation, ça a des effets, on vient de le dire, mais ça a des effets aussi très concrets dans la manière de penser le monde qui vient, c'est-à-dire que mettre les gens face à leurs responsabilités. Et quand il parlait de défense européenne, on a le sentiment et d'ailleurs il y a un commentaire qui est en train de bouger sur ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'on était très anti-Trump, très diabolisant au départ, mais vraiment de manière assez caricaturale, 150%. Et puis petit à petit, dans le commentaire de son activité, des résultats, finalement de l'efficacité, mais aussi parfois du ton, on pourrait presque enseigner sa manière de faire de la diplomatie demain dans les écoles de diplomatie. Vous voyez, on est en train d'intégrer petit à petit à la fois la méthode et le style, mais aussi la manière dont il conduit stratégiquement, en tout cas lui et les équipes et les États-Unis avancent.
Est-ce que c'est un progrès? Parce que ça repose sur un rapport de force.
Exactement,
quand même.
Ça n'est qu'un élément de rapport de force, mais qui dit aussi finalement, il y a des zones du monde qui appartiennent à des leaders. Les Chinois, ils sont leaders sur là-bas, puis ils vont s'occuper du Japon d'ailleurs, et puis les Russes sont chez eux, et puis voilà. Et puis j'accepte finalement dans quelques années que le dollar soit plus la monnaie qui nous permette de nous imposer globalement comme ça. Et je l'anticipe finalement quelque part, et puis comme j'ai fait sur l'énergie. Donc il y a ça. Et puis, paradoxalement, on consomme tous du produit américain. L'illustration culturelle, la dynamique technologique, les principales marques avec lesquelles on est en relation à travers le monde aujourd'hui, hormis peut-être l'espace chinois et asiatique, sont d'obédience américaine. Les classements des grandes marques internationales sont essentiellement américaines, dans la capacité de sympathie, dans les performances.
Et avec des grandes marques d'ailleurs et des grands groupes qui sont souvent aussi opposés à Trump.
Et bien sûr, parce qu'il leur évoque un avenir qui n'est pas celui qu'elles ont imaginé. Elles se déploient à travers la planète. C'est là où d'ailleurs il y a certainement une forme d'éclaircissement à trouver et d'hypocrisie dans cette espèce de soi-disant repli généralisé, et en même temps une grande agressivité sur la plupart des marchés. Sur la plupart des marchés, qu'ils soient des marchés totalement commerciaux ou des marchés parfois qui dépassent très largement le commercial.
Laurence Nardon, la dernière grande manifestation anti-américaine, on peut la situer à 2003, quand il y a eu des manifestations contre la guerre en Irak, qu'on avait connu des millions de personnes dans les rues à Rome, un peu moins en France, mais il y avait quand même, en Occident, ça avait beaucoup bougé à ce moment-là. On peut dire que Obama avait un peu embelli tout ça, ou la vision des États-Unis. Est-ce que, en fait, est-ce que aujourd'hui Donald Trump n'est pas un peu le revers de la médaille de deux mandats d'Obama?
Oui, c'est vrai que l'anti-américanisme en France, quand on pose la question dans des enquêtes d'opinion qui sont faites régulièrement, on voit que l'opinion que les Français ont des États-Unis, s'ils sont favorables au pays, s'ils trouvent qu'il a une action bénéfique dans le monde, etc., on se rend compte que les réponses, c'est extrêmement volatile. Et effectivement, le point bas, c'est 2003, où je crois que seulement 37% des Français avaient une opinion positive, non pas de George Bush, on n'en parle même pas, mais des États-Unis. Sous Obama, ce chiffre était remonté à 70%, 80%, une opinion extrêmement favorable, donc vraiment un coup de balancier. Et avec Trump, on est redescendu à 45% d'opinion favorable des États-Unis, donc vous avez tout à fait raison.
Pour aller dans votre sens, d'ailleurs, il y a une étude qui est réalisée par le Pew Research Center sur 37 pays, et donc qui dit que la confiance dans le président des États-Unis aujourd'hui est tombée à 22% contre 64% à l'époque d'Obama. En revanche, la défiance est passée de 23% à 74%, c'est-à-dire qu'elle a été multipliée par 3. En revanche, quand on regarde la perception des États-Unis, elle est favorable encore à 49%. Elle était quand même à 64% sous Obama. Et le sentiment défavorable, c'est 39% contre 26% sous Obama.
Mais donc c'est extrêmement volatile et c'est très lié à la personnalité du président, finalement, l'image du pays globalement. Mais pour répondre à votre question, il y a eu de grandes manifestations anti-Trump, enfin, et non pas anti-américaine d'ailleurs, en janvier, lors de son élection, il y en a qui ont rassemblé des millions de personnes aux États-Unis,
dans les rues
bien
Washington,
sûr, mais également à l'étranger. Alors peut-être assez peu en France, mais en Grande-Bretagne, on avait eu déjà à l'époque, en Allemagne et aussi dans d'autres pays du monde, en Amérique latine, bien sûr.
Benjamin, vous faites aussi le même constat, on distingue le président et l'État, les États-Unis.
Oui, oui, effectivement. Je pense que il y a une perception qui sans doute est globalement défavorable de Donald Trump. Après, je prends qui est distingué effectivement des États-Unis. Je pense qu'il faudrait quand même distinguer là aussi dans un certain nombre de sondages le degré d'implication des gens vis-à-vis de leur détestation des États-Unis ou de Trump, parce que je pense que c'est une détestation qui est très virulente, encore une fois, dans un certain nombre de cercles, des élites, des cercles aussi de gens qui sont très heurtés par sa politique pour X raisons. Mais je ne suis pas certain que la population dans sa globalité soit prête à comme ça a été le cas effectivement sous George W. Bush, soit suffisamment heurtée par sa politique pour être prêt à descendre massivement dans la rue. Je pense que la
quand
plupart...
Vous faites quand vous faites la scission entre les élites et donc ça veut dire le reste de la population, vous voulez dire qu'il y a une partie aujourd'hui de la population, notamment en France, qui aujourd'hui voit d'un œil très favorable ce que fait Donald Trump et non pas George Bush.
Non, je pense que autant George Bush suscitait une forme de détestation par un certain nombre de choses qu'il avait faites en matière guerrière en particulier, je pense que Donald Trump, il suscite une réelle détestation au sein des élites pour un certain nombre de raisons, mais je pense que le français moyen, pour autant que ça existe, n'a pas une opinion extrêmement tranchée, violente, arrêtée sur Donald Trump. Je pense qu'il pense globalement que c'est un populiste et que c'est pas forcément quelqu'un qui fait du bien pour la planète, mais je crois pas qu'il ait une opinion très arrêtée. Je pense que la virulence des points de vue sur Donald Trump est quand même réservée à un petit cercle des élites, effectivement, parce que Donald Trump prend frontalement les valeurs de ces élites, que ce soit en matière effectivement d'immigration, que ce soit en matière économique, et aussi donc voilà. Donc je pense que ça c'est une distinction à faire, et je pense aussi que c'est lié au projet européen, parce que les élites sont extrêmement pro-européennes, et que Donald Trump, ce qu'il fait en permanence, c'est qu'il met la construction européenne telle qu'elle existe aujourd'hui face à ses dysfonctionnements et face à son impuissance.
Il a peut-être intérêt aussi à ce que l'Union européenne ne se porte pas bien aussi.
Oui.
Jean-Christophe Gallet.
Oui,
bien sûr, c'est là où, encore une fois, on rejoint la stratégie américaine, et pas seulement trumpienne, et acte finalement aux méthodes. C'est-à-dire que chez les Français, je pense qu'il y a même parfois, et ailleurs en Europe encore davantage, un écho favorable aux mots. Et aux approches de Trump qui sont pas simplement, alors pour le coup, techniques ou de matière méthodique, c'est qu'est-ce qu'il dit sur la migration, sur l'islam, sur l'Union européenne, sur un certain nombre de grands messages qui sont tout à fait accessibles et qui sont pas des concepts élitaires là pour le coup. Et là, on voit apparaître petit à petit, ça c'est pas venu en France directement, mais une performance de perméabilité, je dirais, qui rejoint d'autres populismes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a des populistes de gauche qui s'y retrouvent et des populistes de droite qui s'y retrouvent. Et aujourd'hui, dans l'espace de l'Union européenne et en France aussi, il y a une capacité à entendre, à faire écho et à se réapproprier un certain nombre de points de fond, mais aussi de forme de Trump.
Y compris en Europe, vous qui voyagez en Europe.
Tout à fait. Je pense qu'il y a, il y a au-delà. Alors, pour le coup, ça va même au-delà en termes de, là, pour le coup, il y a une stratégie diplomatique, même qui est à l'œuvre, parce que, effectivement, celles et ceux qui ne veulent pas d'Europe aujourd'hui, de cette manière, ils ont trouvé un point d'appui idéal, et que les États-Unis sont quand même dans une démarche qui a bougé depuis un certain nombre d'années, qui a préalablement à Trump, sur la relation à l'Union européenne. Donc, il y a à la fois, et puis, paradoxalement, ça n'est pas simplement une affaire d'État à État ou de construction européenne, c'est aussi, évidemment, la relation des entreprises avec l'Union européenne, les entreprises comme Google, les grandes entreprises qui sont présentes ici, elles ont une démarche particulière et tout ça est entremêlé. Encore une fois, j'insiste, aux États-Unis, tout ce qui est public et privé marche souvent ensemble, notamment à l'extérieur. Donc les choses sont beaucoup moins claires que ce qu'elles peuvent apparaître, c'est-à-dire les ennemis d'un côté et les amis de l'autre. C'est une démarche qui est très perturbante, très déstabilisante, et l'Europe en particulier est très déstabilisée par cette approche.
On sort des États-Unis par le sud, direction le Brésil, pour écouter Criollo avec Calçada.
Eu sofri sem perdão. Não consegui admitir a situação. Logo o sofrimento se espalhou. Eu fiquei mergulhado em desamor. Eu sofri sem perdão. Não consegui admitir a situação. Me vejo nessa sentença pendenga de desamor. Eu faltei com você e nada chegou. Um belo dia, pensava que tava escrito.
era eu pra ela, ela pra mim, isso tá bonito. Esqueci de fechar uma porta e uma janela de uma outra casa. Toda a verdade veio na minha calçada. Eu sofri, sem perdão. Não consegui admitir a situação. Logo o sofrimento se espalhou. Eu fiquei mergulhado em desamor. Eu sofri, sem perdão. Não consegui admitir a situação. Sentença, pendenga de desamor. Eu faltei com você e nada chegou. Um belo dia, pensava que tava escrito. Era eu pra ela, ela pra mim, isso tá bonito. Esqueci de fechar uma porta e uma janela de uma outra casa. Toda a verdade veio na minha calçada. Ai, 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 ai. Toda a verdade veio na minha calçada. Toda a verdade veio na minha calçada. Ai, 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 ai. Toda a verdade veio na minha calçada. Eu sofri, sem perdão. Não consegui admitir a situação. Logo o sofrimento se espalhou. Eu fiquei mergulhado em desamor. Me vejo nessa sentença, pendenga de desamor. Eu falei com você e nada chegou. Um belo dia, pensava que tava escrito. Era eu pra ela, ela pra mim, isso tá bonito. Esqueci de fechar uma porta e uma janela de uma outra casa. Toda a verdade veio na minha calçada. Ai, 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 ai. Toda a verdade veio na minha calçada. Toda a verdade veio na minha calçada. Ai, 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 ai. Toda a verdade veio na minha calçada. Toda a verdade veio na minha calçada. Ai, 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 ai. Toda a verdade veio na minha calçada. Eu sofri.
Le débat de midi, Didier Siamour.
Dernière partie de ce débat consacré à Donald Trump, avec une question, une seule, à chacun de nos invités. Je vais vous demander de répondre à tour de rôle. Alors, ce Trumpisme, est-ce que c'est en fait une rupture avec ce que sont les États-Unis, ou est-ce que c'est un retour à ce que pouvaient être les États-Unis dans leur côté conquérant ? Laurence Nardon.
Alors, c'est une rupture avec les États-Unis depuis 45, mais en même temps, c'est un retour peut-être à des situations antérieures. Il faut pas oublier qu'au 19e siècle, les États-Unis étaient protectionnistes pour protéger leur industrie naissante, et qu'ensuite, les États-Unis ont été fermés à l'immigration des années 20 aux années 60. C'est-à-dire qu'ils ont fermé les portes, très clairement. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand Trump se souvient des années 50 aux États-Unis, il se souvient d'une Amérique blanche, parce qu'à l'époque, les portes de l'immigration étaient fermées dans ce pays. Donc, pour lui, c'est un retour à ça. Une deuxième conclusion très rapidement, je laisse la parole à mes deux comparses. Je pense que cette rupture, la rupture qu'introduit Trump aujourd'hui, de toute manière, c'est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Ça fait partie d'un mouvement beaucoup plus global que juste les États-Unis, qu'on voit aussi en Europe, qui est ce mouvement de refus de la mondialisation et d'une fermeture à la fois économique avec une volonté de protectionnisme et une fermeture également identitaire avec une volonté, pas universelle évidemment, mais portée par de nombreux politiques, d'une fermeture à l'immigration tout simplement. Et donc Trump fait partie de ce mouvement. Et donc ce retour, vous me posez la question d'un retour à quelque chose, c'est un retour qu'on voit aussi en Europe, évidemment.
Qui est plus global, pas simplement aux États-Unis. Benjamin Bastenberger, vous partagez ce constat ?
Oui, c'est-à-dire je pense qu'il y a des éléments effectivement de différence fondamentale avec ce qui a été promu par les États-Unis depuis 1945, et en particulier l'internationalisme, l'idéologie effectivement de la mondialisation, parce que, et c'est vrai que ça existe aussi en Europe, il y a une réhabilitation de la limite, une réhabilitation de la frontière, que ce soit en matière commerciale ou que ce soit en matière migratoire. Donc ça, c'est une vraie rupture avec l'idéologie dominante promue par les États-Unis depuis 30 ans, depuis 40 ans. Et après, il y a des éléments de continuité de manière presque caricaturale et grotesque dans une sorte de culte de la célébrité, culte de l'argent, culte de l'apparence, c'est quand même un promoteur immobilier, un candidat de télé-réalité. Donc il a réussi comme ça via la télévision. Donc de ce point de vue, il incarne de manière presque grotesque et c'est presque une sorte de créature de Frankenstein de ce qui était devenu aussi une partie de l'idéal américain à la fin du XXe siècle et lui a surfé aussi sur cette vague. Donc c'est un mélange des deux et c'est ce qui le rend à la fois répulsif et fascinant.
Jean-Christophe Gagnon.
Moi, pour avoir fait une partie de mes études et travailler beaucoup là-bas, je pense qu'il y avait toujours cette espèce de mécanique à l'œuvre aux États-Unis, c'est-à-dire qu'elle était loin d'être majoritaire, mais elle était là bien présente, c'est-à-dire qu'on peut pas cette partie de l'ADN américain, elle a toujours existé et effectivement là où il y a quelque, je pense que lui il est finalement un instrument qui a été opportuniste, qui a été cette espèce de battleur entre showbiz, gangster de l'immobilier, ainsi de suite. Il est beaucoup plus complexe, et vous l'avez très bien décrit, c'est un type qui défend des idées là qu'il n'apparent pas, c'est pas du tout ça derrière. Par contre, il y a des forces à l'œuvre. Et elles ont, en gros, accepté l'idée que les États-Unis ne domineraient plus le monde. Et plutôt que de vouloir maintenir le coup de cette domination vaine, que ce soit sur le terrain militaire, sur le terrain économique, sur le terrain monétaire demain, avec un repli énergétique qui a été le vrai virage, le vrai tournant. Et une partie de ces élites-là, pour le coup, ont décidé, il y a quelques années, d'organiser ce repli stratégique et d'accepter une défaite, finalement, américaine sur le terrain de la mondialisation.
Merci à nos invités. Laurence Nardon, je rappelle que vous êtes en charge du programme États-Unis de l'Institut français des relations internationales. Vous sortez au mois d'octobre les États-Unis de Trump en 100 questions aux éditions Talendier. Merci Jean-Christophe Gallien, donc vous êtes enseignant à Paris 1 et en charge du cabinet conseil Zenon 7. Et puis Benjamin Mass-Stamberger, merci également. Bon été, vous êtes journaliste et essayiste. On se retrouve demain pour parler de sport et de supporters avec une question. Que signifie être supporter en 2018 à l'heure du sport business?